Deutsche Welle Magazine Santé.
Des bouillons qui donnent du caractère à vos sauces, des bouillons en or, des bouillons magiques. Le bouillon pour relever les plats, les cuisiniers et cuisinières connaissent bien. Mais de plus en plus, la magie ne semble plus opérer, en tout cas plus sur certains qui s'inquiètent pour leur santé. Dans ce magazine, nous parlerons également de malnutrition au Mali. Carole Assignon, micro, vous écoutez le magazine Santé.
They call me black magic woman. They call me black magic woman. If I'm a black magic woman or the train to make a devil out of me.
En cube ou en poudre, les bouillons pour relever le goût des plats font sensation dans les cuisines, notamment africaines. Ces bouillons industriels qui inondent les marchés sont toutefois de plus en plus décriés. Ils contribueraient en effet à la recrudescence de maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Notre correspondant au Cameroun, Henri Fotzo, a mené une petite enquête sur le sujet.
À 31 ans, ce jeune homme que nous rencontrons à Doualane de Koti est déjà hyper tendu.
J'ai été hyper tendu. On m'a conseillé de ne pas toujours manger excès de sel, excès d'alimentation gras. Bon, à un moment de ma vie, c'était un peu baissé. Et puis le traitement, ça s'est baissé. J'ai continué à manger en pensant que j'étais guéri. Bon, je suis venu ce matin, j'ai vu que c'est encore élevé.
Le jeune homme vit dans la maison familiale.
Je n'ai pas une alimentation fixe. Je mange ce que la mère prépare. Et elle ne prend pas en considération mes préférences. Ce qui a été dit à l'hôpital, parce que je ne suis pas le seul habitant de la maison. On ne peut pas pour toute la maison. Et moi, je mange aussi comme tout le monde, sans savoir que non. On doit mettre légèrement le sel ou bien on va lever d'abord ma part avant de mettre le sel pour toute la maison.
Vous avez compris, ce jeune homme est malade à cause surtout de son alimentation. Or, Madeleine Poka se porte bien malgré son âge avancé. Elle consomme très peu de sel et pas du tout de ces produits trop salés et gras qui servent à relever le goût du repas.
J'ai 59 ans et je me débrouille à manger de ce qu'on demande de manger. Beaucoup de légumes, je bois beaucoup d'eau et je fais un peu d'exercice physique. Non, on m'a dit que j'ai une bonne tension, ma glycémie est bonne, que je ne m'inquiète pas trop.
Docteur Marie-Solange Ndom-Ebongay de la Société camerounaise de cardiologie soutient que la nourriture est fondamentale dans notre santé.
Hippocrate disait que la nourriture soit ton remède et que ton remède soit ta nourriture. Ça veut dire que l'alimentation a une part prépondérante. Je dirais même que c'est la pointe angulaire de cette prévention. Pourquoi ? Parce qu'une alimentation riche en sel, riche en graisse, riche en sucre, nous expose aux maladies cardiovasculaires. Ça, c'est largement démontré. Ça ne fait plus de débat.
Le diabète et l'hypertension artérielle sont en progression rapide au Cameroun. Selon la Société camerounaise de cardiologie, un Camerounais sur trois est hypertendu et 70% de personnes affectées l'ignorent. L'hypertension et le diabète sont alors qualifiés de tueurs silencieux car facteurs d'accident vasculaire cérébral AVC, de crise cardiaque et de mort subite. Les bouillons de cube qui rentrent dans les cuisines y sont pour beaucoup. Doit-on alors les interdire ? Docteur Marie-Solange Ndom.
Ces bouillons de cuisson, pour moi, c'est question de mesure. Il faut savoir que ces cubes-là sont riches en sel et sont riches en graisse. Donc, vraiment à utiliser en quantité modérée. On ne va pas strictement les interdire, mais tout est question de mesure. Moins on en met, mieux c'est.
L'hypertension artérielle multiplie par 10 le risque d'AVC, de même que 80% des crises cardiaques sont évitables si les règles de prévention sont respectées. Docteur Marie-Solange Ndom précise.
On recommande de manger moins de 6 grammes de sel par jour. Il faut savoir que des aliments comme le pain, les sardines, les boîtes de conserve sont très riches en sel. Donc, ça veut dire que cette concentration-là est très rapidement atteinte. Donc, faire attention à son alimentation et surtout promouvoir le sport.
Les AVC, selon la Société camerounaise de cardiologie, touchent 60% de la population féminine à cause de l'obésité qui affecte 25% de la population générale. Et 600 000 personnes sont atteintes de diabète dans le pays. Selon la même source, les maladies cardiovasculaires causent 17 000 décès par an au Cameroun. Des statistiques qui ont depuis franchi le seuil critique. Henri Fotso à Douala pour la Deutsche Welle.
Cameroun, on se rend à présent au Mali. Là-bas, ce n'est pas une alimentation trop riche en sel qui inquiète, mais plutôt la malnutrition aiguë. Une malnutrition qui touche surtout les enfants de 0 à 5 ans, qui en sont les premières victimes. Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus de 10% d'entre eux seraient concernés. Et c'est surtout le nord du Mali, en proie à l'insécurité et l'instabilité, qui est plus touché. C'est ce que nous explique Eliane Luthi de la section malienne d'UNICEF.
Quand il y a une crise, comme la crise qui a éclaté au Mali en 2012, il y a bien sûr des perturbations au niveau des services sociaux, donc la possibilité des familles d'accéder à des services sociaux de base, notamment des services de soins pour leurs enfants. Il y a aussi la question dans le nord du pays de l'accès à l'eau et à l'assainissement qui est extrêmement limité. Et nous savons bien sûr que la malnutrition est toujours intimement liée avec d'autres maladies de l'enfant, notamment la diarrhée. Donc quand il y a de ce genre d'accès limité à l'eau, des populations en migration, il y a une plus forte incidence la diarrhée et ça coïncide presque systématiquement avec un pic de la malnutrition. L'autre facteur, c'est la question de la pauvreté aggravée des familles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles dans le nord du Mali qui ont perdu par exemple leur emploi lors de la crise, ce qui a entraîné une pauvreté aggravée de la famille et une situation d'insécurité alimentaire, donc des familles qui ont de plus en plus de mal à bien nourrir leurs enfants.
Pour inverser la tendance, les autorités maliennes ont mis en œuvre un plan d'action contre la malnutrition, un plan axé notamment sur la surveillance de la croissance et du développement de l'enfant, la lutte contre les carences en micronutriments ou encore la prévention des maladies chroniques liées à la malnutrition. Car il s'agit en effet d'un véritable problème de santé publique qui concerne toute la société. Eliane Luthi.
Un enfant qui tombe dans la malnutrition va avoir un système immunitaire qui est affaibli, va avoir plus de difficultés à l'école et va être plus grand risque d'abandon scolaire et sera moins productif à l'âge adulte. Donc si on regarde l'impact de cette malnutrition des enfants sur le long terme, c'est réellement une question d'un impact sur le développement entier du pays. La prévention de la malnutrition est un des meilleurs investissements qu'un pays puisse faire. Un pays qui met $1 dans la prévention de la malnutrition d'un enfant à la base va récupérer $16 plus tard en termes d'augmentation de la productivité à l'âge adulte.
Au niveau de UNICEF, justement, quelles sont les actions menées pour venir en aide à ces enfants malnutris?
Avec nos partenaires comme le Programme alimentaire mondial et d'autres partenaires des Nations Unies, on appuie bien sûr la réponse nationale à la crise nutritionnelle. L'UNICEF est le principal fournisseur au Mali des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, qui est un terme un peu technique, mais qui est un produit en fait à base de pâte d'arachide enrichie. Et c'est un produit qui permet un traitement à domicile par le parent de l'enfant malnutri. Donc c'est un produit qui n'a pas besoin de réfrigération, qui n'a pas besoin de préparé à base d'eau, donc qui est très facile pour un traitement en ambulatoire. Donc l'UNICEF fournit ces produits pour tous les enfants qui sont malnutris sévères au Mali. Mais en plus de ça, on travaille beaucoup au niveau de la prévention, parce que là, on parle des besoins immédiats, c'est-à-dire la situation d'urgence, tous ces enfants qui ont besoin d'un traitement immédiat pour sauver leur vie. Mais sur le long terme, il faut investir beaucoup plus dans la prévention. Et la prévention, ça veut dire renforcer la résilience des populations. Ça veut dire promouvoir les bons gestes dès la naissance de l'enfant. On sait par exemple que l'allaitement exclusif d'un enfant dès la naissance jusqu'aux 6 mois est un des meilleurs gestes pour prévenir la malnutrition. Et c'est un geste qui ne coûte rien. Si la maman est capable d'allaiter, c'est un geste qui permet de prévenir toute forme de malnutrition. Donc, il y a des gestes comme l'allaitement maternel exclusif, comme le lavage des mains au savon et l'eau propre, comme la vaccination des enfants, des gestes qu'on peut faire dans les 1000 premiers jours de l'enfant qui aident beaucoup dans la prévention de la malnutrition. Donc, si on agit pendant les 1000 premiers jours de l'enfant, on peut beaucoup faire pour prévenir la malnutrition des enfants après.
Alors, il y a beaucoup d'actions à mener sur le terrain avec UNICEF et le gouvernement malien a également un plan national de lutte contre la malnutrition. Est-ce qu'on peut espérer que le pays arrive à surmonter cela, à vaincre réellement sur le terrain cette malnutrition?
Nous sommes réellement en crise nutritionnelle. Donc il y a à la fois le besoin de répondre vraiment à cette urgence. Donc un enfant sur 10 qui est malnutrie aiguë. C'est une réelle urgence. Il faut venir en aide à tous ces enfants et leur fournir un traitement immédiat. Il faut toujours travailler sur les deux niveaux, répondre aux besoins immédiats en urgence, mais aussi travailler beaucoup plus au niveau de la prévention.
Mais est-ce que vous arrivez à toucher les zones les plus reculées, puisque là aussi la malnutrition fait beaucoup de victimes, hein?
Il est sûr que dans des régions à plus haute insécurité, fournir des aliments thérapeutiques est extrêmement difficile. Nous travaillons avec le ministère de la Santé pour faire la distribution à travers les différentes régions vers les enfants qui en ont le plus besoin. Ça reste difficile surtout dans les régions qui sont le plus touchées par l'insécurité. Là, il faut mettre en place des mécanismes pour s'assurer que la distribution peut être faite et atteindre chaque enfant.
Et c'est avec ces explications d'Eliane Lutti de la section malienne d'UNICEF que prend fin ce magazine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.
Ya tunya ya modo de gelato.